Bienvenue à la caserne Achard à Poitiers, où nous débutons la conférence radiophonique pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires. Cette conférence est la première action de médiation de la démarche Territoire pilote de sobriété foncière, initiée à l'échelle nationale. Elle est portée en local par Grand Poitiers Communauté Urbaine et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et menée par l'équipe pluridisciplinaire composée de Selva et Mogin, Urban Idée, Guam et Tout Terrain en charge de la médiation. On va maintenant s'intéresser à comment ça se passe ici à Poitiers. Et donc je m'adresse à Sylvain Brier. Qui, je le rappelle, est directeur de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un EPF, quel est son rôle et peut-être aussi ses caractéristiques, en tout cas celles de Nouvelle-Aquitaine?
Oui, donc des établissements publics fonciers, il y en a un peu partout en France, mais pas partout. Il y en a une trentaine. Donc, celui de Nouvelle-Aquitaine, en fait, historiquement, c'était Poitou-Charentes. Hein, il a bientôt une quinzaine d'années, et c'est pour ça qu'une des particularités, c'est que nous avons tout notre siège et nos équipes qui sont basées à Poitiers. D'où le partenariat évoqué par Madame Bellucco sur le territoire pilote de sobriété foncière, parce que c'est ça nous intéresse beaucoup d'être partenaire localement, qu'on parlait du local, c'est important pour nous. Le métier de l'EPF, en fait, on a un statut d'établissement public industriel et commercial. Le métier, c'est d'accompagner les collectivités sur deux choses. La première, c'est de les accompagner dans l'établissement de stratégie foncière à l'échelle de leur territoire et de les aider à définir les priorités. Et c'est pour ça que le projet, la territoire pilote de sobriété foncière, est pour nous très intéressant, parce que ça va aussi nous permettre de monter en compétences. Et le deuxième métier qui est le plus connu, c'est de faire du portage foncier pour le compte des collectivités locales, où on agit à la demande des collectivités locales, on n'agit pas de notre propre initiative, et puis sur des périmètres identifiés, on vient acheter du foncier, soit par voie d'acquisition amiable, soit par voie de préemption, soit voire même dans certains cas par voie d'expropriation quand l'utilité publique est démontrée. Une fois ce foncier acheté, on le porte quelques années, le temps de parfois le transformer. La transformation, c'est uniquement la démolition dans certains cas. Donc là, on va bientôt démarrer un chantier à Chauvigny d'ailleurs, où il y aura une grosse dimension sur le réemploi des matériaux issus de la démolition, parce que c'est un gros vecteur de sources de matériaux. Et derrière, notre mission s'arrête à la revente, soit à la collectivité, soit à l'opérateur, du projet qui est défini par la collectivité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas aménageur, on n'est pas constructeur, nous, on fait que préparer les opérations futures. Et donc, bien sûr, historiquement, on a été amené à intervenir sur des secteurs en extension urbaine, hein, même à Poitiers, hein, parce que, par exemple, tout le secteur de République... la zone d'activité du secteur République, on a été amené à faire des portages fonciers il y a quelques années. Maintenant, on s'oriente vraiment sur l'enveloppe urbaine existante. Voilà. Donc, et sur des opérations de ce qu'on appelle de renouvellement urbain, voire de sur des friches et de revitalisation aussi de bâtis à reconvertir, etc., avec une forte dimension immobilière. Et donc, on a une équipe de 60 personnes. Nos bureaux sont juste en face de la gare, donc à quelques dizaines de mètres d'ici. Principalement des experts du foncier, de la négociation, de l'évaluation et puis des montages techniques, parce que le foncier, c'est quand même une matière à la fois juridique, urbanistique et financière. Donc tout ça mêlé à la fois, et donc ça nécessite beaucoup d'expertise.
Il y a quelques jours, je vous ai entendu évoquer la citation d'Edgar Pisani qui dit « J'ai lentement découvert que la question foncière était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir. Ils façonnent nos comportements. » Pourquoi cette phrase vous est-elle chère et comment résonne-t-elle avec l'EPF de Nouvelle-Aquitaine ?
En fait, quand on parle de foncier, on parle de propriété, voilà, tout simplement. Et le droit de propriété est quelque chose d'éminemment, donc c'est dans le droit, mais c'est quelque chose qui a été construit de manière très culturelle. C'est un droit fondamental, le droit d'être propriétaire. Et le code, c'est un droit de l'homme, hein, d'être propriétaire, d'avoir des propriétés privées. Et derrière, le fait d'être propriétaire donne des droits qui sont très étendus sur sa propriété. On a le droit, bah, le sujet du logement vacant, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de louer un logement, à part des cas exceptionnels de réquisition par les pouvoirs publics, rien ne nous oblige à le louer. Si on est propriétaire d'une voiture et puis qu'on a envie de changer sa couleur ou même de casser son pare-brise parce qu'on est énervé à coups de batte de baseball, rien ne nous l'interdit. Voilà, donc c'est, on est propriétaire. C'est jusqu'au boutiste. Voilà. Donc, d'où les réflexions d'ailleurs menées actuellement. Je pense que par rapport à l'intervention de Philippe, il y a des dimensions aussi par rapport à la notion de commun, au développement des organismes de foncier solidaire, des outils comme ça qui apportent aussi une façon de répondre aussi à cet enjeu en fait d'essayer de mutualiser l'usage du foncier et de mieux le partager. Je voulais aussi compléter un peu le propos de Philippe sur un point. Parce que je souscris à tout ce qu'il a dit, notamment sur les questions d'aménagement du territoire. Est-ce que c'est au pouvoir du public d'accompagner des dynamiques existantes, hein, ou plutôt d'en limiter les impacts? Par un point qui est pour moi important par rapport au ZAN. En fait, dans le ZAN, en fait, c'est quelque chose qui est en train de venir. C'est-à-dire que la loi est écrite, les décrets sont sortis sur la définition de l'artificialisation des sols. Tout ça, il a expliqué qu'on avait du mal à le mesurer. Donc actuellement, on est encore dans une première phase qui est de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et forestiers, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'artificialisation. C'est deux choses bien, bien différentes. À titre d'exemple, quand la punchline du département consommait tous les 10 ans, en fait, son origine, ça vient de la Fédération nationale des SAFER. Donc, qui sont les sociétés d'aménagement foncier agricole, qui communiquent tous les ans sur les marchés fonciers, la consommation des marchés fonciers. Et c'est lors de la communication publique et grand public, à chaque fois, on a un communiqué de presse qui est repris dans les quotidiens nationaux et dans les médias nationaux sur cette consommation depuis 10-15 ans. Mais on parle de consommation d'espaces agricoles et naturels. Alors, je vais vous donner un chiffre. C'est sur les permis de construire délivrés, donc hors habitat. Le premier, alors ça c'est donc sur un an lissé de mai 2021 à avril 2022, donc c'est des chiffres récents. Sur un an, il s'est délivré 8 900 000 mètres carrés de surface de plancher à construire pour des entrepôts. Donc c'est énorme. Quel est le deuxième ? 8 600 000 mètres carrés pour des bâtiments agricoles. Voilà, moi je suis originaire de la région nantaise, c'est le maraîchage en serre avec des permis qui font 30 000, 40 000, 50 000 mètres carrés pour un seul bâtiment et avec une chaufferie gaz qui fait je ne sais pas combien de kilowatts. Qui nécessite une installation classée, une déclaration, tout ça, avec une cheminée qui fait 15 mètres de haut. Ça, c'est de l'agricole. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Donc, c'est pour ça que la bascule, elle va être compliquée. Dehors de la territorialisation des objectifs et de comment on mesure l'artificialisation, tout ça, c'est la dynamique, ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique, elle est lancée. Mais derrière, il va falloir embarquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Et donc, on sent qu'il y a des freins. On voit les territoires ruraux qui disent bah, de l'espace, j'en ai. Et puis, un modèle économique sur la maison individuelle qui permet aussi l'accession à la propriété, qui est financé par les banques. Une banque, c'est plus facile d'obtenir un prêt pour la construction d'une maison individuelle que pour rénover une bâtisse. Parce qu'avec une maison individuelle à construire dans un lotissement, on sait quel jour, à quelle heure on aura les clés et pour quel prix. Voilà, donc il y a toute la chaîne voilà, faire évoluer, notamment vers la rénovation.
Donc nous comprenons que la machine est en marche vers la sobriété foncière. À nous donc d'agir pour huiler les rouages et faire en sorte qu'elle ne s'arrête surtout pas. Merci Elisabeth Lucco, merci Philippe Biwix, merci Sylvain Brier.
Ce podcast est le 6e d'une série de 6 issus de la conférence « Pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires » qui s'est déroulée le 6 juillet 2022 à la caserne Achard à Poitiers dans le cadre de l'étude « Territoire pilote de la sobriété foncière ». Il a été réalisé par Tout Terrain, co-conçu et organisé avec Selva et Mogin pour Grand Poitiers Communauté Urbaine, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la Société d'équipement du Poitou.